Alors, une fois n'est pas coutume, je vais prêcher ce soir sur un seul verset. Alors, vous savez, les périodes estivales, les périodes de coupure estivale, c'est des fois c'est le moment d'essayer des choses nouvelles. Alors, rassurez-vous, on ne va pas non plus révolutionner l'Église, révolutionner nos habitudes, mais parce que l'Église tourne un petit peu au ralenti, je me permets de faire quelques écarts par rapport à ma série sur l'Évangile de Matthieu, que nous reprendrons bien sûr en temps voulu. Mais ce soir, je voudrais prêcher sur un seul verset, mais attention, ce n'est pas n'importe quel verset. Et je ne pense pas exagérer en disant cela, mais vous pourrez toujours en débattre avec moi après le culte. Je dirais que c'est un des versets les plus importants du Nouveau Testament. C'est un des versets les plus importants du Nouveau Testament, d'abord parce qu'il se trouve dans l'Épître aux Romains, et l'Épître aux Romains, c'est une des épîtres les plus importantes du Nouveau Testament, parce que c'est dans cette épître que l'apôtre Paul va vraiment expliquer en détail sa théologie de l'évangile, en fait. Il va nous expliquer en détail qui nous sommes en tant qu'êtres humains, d'où nous venons, pourquoi les choses ne tournent pas rond sur terre, pourquoi nous avons des problèmes, quel est le remède à ces problèmes, qu'est-ce que Dieu a fait pour remédier à ces problèmes. Pour nous, il va nous parler de la grâce de Dieu, il va nous parler de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ qui est envoyé de Dieu pour justement résoudre nos problèmes. Il va nous parler de comment nous pouvons recevoir ce salut, comment ensuite nous pouvons marcher dans ce salut par la puissance avec l'aide du Saint-Esprit. Et puis, il va développer tous ces thèmes-là pendant un certain nombre de chapitres, en fait, 11 chapitres. Et ensuite, il va arriver au 12e chapitre de l'Épître aux Romains. Et là, il va y avoir un mot très très important dès le début du 12e chapitre qui introduit, qui montre l'articulation dans la pensée de Paul. Ce mot très important, c'est le suivant. Donc, il nous parle donc de tout l'évangile, tout ce que Dieu a fait pour nous, qui nous sommes, qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Et ensuite, après avoir dressé ce tableau magnifique et détaillé, il dit « Donc !» Et ensuite, il va y avoir une série d'exhortations pratiques. Voici ce qui doit donc découler de cette exposition magistrale de l'évangile par l'apôtre Paul. Et donc, ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains marque ce passage d'un discours, on va dire, plutôt théologique à un discours plus pratique et pastoral. Voici comment ça doit se traduire dans votre vie. Et au début donc de ce chapitre 12, on va avoir les applications, et là je dirais l'application pratique, vraisemblablement la plus importante, puisqu'elle vient au début de cette partie d'exhortation pratique concernant la vie chrétienne. Et donc c'est pour ça que je dis, c'est peut-être un des versets les plus importants du Nouveau Testament. Celui qu'on va lire, il se trouve au tout début du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, un des versets les plus importants, peut-être parce que c'est l'application pratique la plus importante de l'Évangile, d'après l'apôtre Paul. Alors on va pas seulement lire ce verset, il s'agit du verset 2, je vais lire quelques versets plus haut, juste pour avoir un petit peu du contexte, d'accord? Donc je vais lire à partir de la fin du chapitre 11, à partir du verset 33. Donc on est à la fin du chapitre 11 et je lirai jusqu'au chapitre 12, verset 2. Nous lisons la sainte parole de Dieu. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce verset-là qui va retenir notre attention, mais avant d'aller plus loin, prions. Merci notre Dieu pour ta parole. Bénis maintenant, s'il te plaît, la prédication de ta parole et fais en sorte que nos oreilles et nos cœurs soient attentifs à tout ce que tu veux nous communiquer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, je suis sûr que vous avez une opinion sur beaucoup de sujets de société qui défraient régulièrement la chronique, tels que l'euthanasie, la politique familiale française, les énergies renouvelables, les droits des animaux, les élections aux États-Unis, ou l'art moderne, ou Pokémon Go. Vous avez sans doute une opinion sur toutes ces choses qui font l'actualité. Et vous avez une opinion, surtout si vous êtes un Français bien de chez nous, comme tout bon Français qui se respecte, vous avez une opinion sans doute sur quasiment tout. Mais la question que je veux poser ce soir, c'est la suivante. D'où proviennent vos opinions? D'où proviennent-elles? Sur quoi se fondent-elles? Qu'est-ce qui informe vos opinions? Est-ce que vous savez ce que c'est qui a façonné votre manière de penser? Ce que c'est qui a modelé vos valeurs? Ce que c'est qui oriente vos opinions et vos choix de vie qui en découlent par conséquent? Et pourquoi est-ce important de se poser ces questions? Eh bien, imaginez que vous êtes en train de conduire votre voiture et vous arrivez à un de ces vieux passages à niveau où il n'y a pas de barrière qui s'abaisse, il y a juste un feu qui s'allume. Vous savez, un feu rouge qui s'allume. Peut-être qu'il y a aussi un feu vert à côté. Et vous arrivez à ce passage à niveau, vous voyez bien les rails devant vous, ce sont des rails qui sont en état d'usage, manifestement, et le feu est vert. Alors vous vous dites qu'avec un feu au vert, vous pouvez passer, vous pouvez traverser, il n'y a aucun danger, n'est-ce pas? Mais vous savez, à ce moment précis, vous avez intérêt à être sûr de vous, sûr que le vert c'est la bonne couleur, sûr de l'origine de cette information, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un certain danger à traverser si vous n'êtes pas sûr. Alors, les chances, la probabilité est de votre côté, puisqu'il n'y a pas des trains qui passent sans arrêt, donc il y a peut-être 9 chances sur 10 que vous puissiez passer, même si vous n'êtes pas sûr, et pas vous faire écraser par un train. Mais le danger devient plus grand si effectivement c'est une voie ferrée très fréquentée. Et là, vous risquez beaucoup plus en cas d'incertitude. Vous pourriez vous poser la question, mais j'ai un doute, et si c'était rouge en fait la bonne couleur pour traverser? Les implications sont sérieuses. Et le texte que nous venons de lire nous invite en effet à nous poser cette question. D'où proviennent nos opinions? Ce texte, tout simplement, a pour but de nous faire éprouver l'origine des choses que nous pensons. Éprouver l'origine des choses que nous pensons. En fait, l'apôtre Paul nous rappelle ici, vous allez le voir que, comme Denis nous le rappelait il y a 2 semaines lui-même à travers une autre prédication, il nous rappelle, l'apôtre Paul, que nous ne vivons pas dans un monde de neutralité. Nous ne vivons pas dans un monde de neutralité où il ne serait pas important de savoir si la bonne couleur est rouge ou vert. L'apôtre ici nous invite au contraire à examiner le fondement de toutes nos opinions dans un contexte précis qui est celui des 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Rassurez-vous qu'on ne va pas lire en entier, mais ces 11 chapitres qui nous décrivent la personne et l'œuvre unique, complète et suffisante de Jésus-Christ. Et nous allons voir que si nous laissons notre intelligence se conformer, non pas à n'importe quoi au gré des influences, mais se conformer à l'intelligence de Dieu, eh bien cela changera peut-être notre vie dans des domaines que nous ne soupçonnons pas. Alors, ce verset, il n'est pas très long. Je l'ai divisé en 3 parties. Première partie, ne vous conformez pas au monde présent. Deuxième partie, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Troisième partie, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Première chose donc que nous dit ce verset, la première chose que nous dit ce verset, c'est en fait un avertissement qu'on pourrait paraphraser de la manière suivante, si j'ose le faire. Ne vous laissez pas formater par le discours des médias. Ne vous laissez pas assujettir par la pensée unique, ambiante. Ce serait un peu comme ça qu'on dirait les choses aujourd'hui. La Bible affirme en effet que nous vivons dans un monde qui n'est pas neutre, c'est un monde déchu, un monde corrompu, un monde dysfonctionnel. Dans cette même épître aux Romains, quelques chapitres auparavant, l'apôtre Paul a dit que même la création, c'est-à-dire même la nature, a été, dit-il, soumise à la vanité. Donc même la nature, en quelque sorte, n'est pas fiable. La Bible affirme par ailleurs, tout ça c'est dans les 11 premiers chapitres, que Jésus est venu pour régler ce problème. Nous vivons dans un monde à problème, mais Jésus est venu pour régler ce problème. Il est en effet mort à la croix pour payer pour les péchés de tous ceux qui se confient en lui, pour nous délivrer donc des liens du péché, des liens du péché et de la mort. Et il est ressuscité le troisième jour pour manifester sa suprématie sur les ennemis de Dieu, sur toutes ces forces qui sont hostiles à la vérité et au bien, mais aussi, pas seulement pour manifester cela, mais après sa résurrection, la Bible dit que Jésus a été élevé, il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute la création, et il a en quelque sorte inauguré un ordre nouveau auquel il nous appelle. Et si nous sommes croyants, si nous plaçons notre confiance en Jésus, si nous devenons les disciples du Seigneur Jésus, nous entrons dans cet ordre nouveau. L'apôtre Paul dit lui-même que nous devenons des nouvelles créatures. Toutes choses ont été faites nouvelles, sont devenues nouvelles. La Bible va même jusqu'à dire que, après être monté au ciel, après que Jésus soit monté au ciel, toutes choses ont été mises sous ses pieds. C'est une affirmation biblique, bien que nous ne voyons pas encore que toutes choses lui ont été soumises. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre, c'est ce que Jésus a dit juste avant d'être élevé dans le ciel et juste avant de monter auprès du Père. Il a convoqué ses disciples et il leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez maintenant et faites de toutes les nations des disciples. J'ai établi cet ordre nouveau, vous en faites partie. Allez-y maintenant, déployez mon règne dans cette création que j'ai réconciliée avec son Créateur, avec le Père. » Et donc aujourd'hui même, Jésus est en train de déployer sa suprématie sur les créations. Donc on ne vit pas dans une position de neutralité. Il y a en quelque sorte deux ordres possibles. L'ordre ancien, qui est l'ordre déchu, l'ordre du péché et de la mort, et l'ordre nouveau, qui est l'ordre racheté, le royaume du Seigneur Jésus, l'ordre de la nouvelle création, l'ordre de la vie, de la résurrection. Dans le passage qu'on a lu, donc à la fin du chapitre 11, Paul vient juste de laisser s'échapper cette louange à Dieu. Vous avez remarqué quand il dit « aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu », mais au verset 36, il dit « tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire dans tous les siècles, c'est dans cette direction-là que va l'histoire du monde ». Un jour, cela sera parfaitement manifesté. Mais cette réalité est déjà vraie aujourd'hui. Ça veut dire que aujourd'hui, déjà, on peut le dire, la terre appartient à Dieu et tout ce qui la remplit appartient à Dieu, vous compris. Et ça, c'est une vérité très importante pour comprendre dans quel contexte nous vivons aujourd'hui. Vous qui êtes croyants, vous savez que vous appartenez à Dieu. Mais vos voisins, vos connaissances qui ne sont pas croyants, ils ne le savent pas et pourtant ils appartiennent à Dieu. Parce que la terre entière appartient à Dieu et tout ce qui remplit la terre appartient à Dieu. Et donc il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas choisir de ne pas croire en Dieu pour se réfugier en Suisse derrière des frontières bien, bien sacrées et se dire « Non, je suis en terrain neutre, je ne concerne pas Dieu, Dieu ne me concerne pas. » Petite illustration. Où que vous vous trouviez en France, vous êtes soumis aux lois françaises, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous êtes dans votre jardin que vous avez payé vous-même, que vous avez acheté vous-même, que vous pouvez vous soustraire à la loi du pays, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous êtes dans votre jardin ou dans votre maison que vous pouvez battre votre femme, par exemple. Alors, vous avez la liberté de le faire, mais pas le droit. Et une nuance importante ici, vous avez la liberté de le faire, mais pas le droit. De la même façon, ici-bas, et dans notre vie en général, nous avons la liberté de faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas parce qu'on a la liberté de les faire que nous en avons le droit selon Dieu. Les non-croyants ont la liberté, en fait, ils pensent en tout cas avoir la liberté de ne pas croire en Dieu. En réalité, ils sont asservis à leur propre péché, comme nous l'étions nous-mêmes avant de croire en Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont la liberté de le faire qu'ils en ont le droit, n'est-ce pas? Et nous avons en quelque sorte la liberté de désobéir à Dieu, hein? Pas parce que nous avons la liberté de le faire que nous en avons le droit. Nous vivons en réalité sous le règne de Jésus-Christ. Et donc, Paul dit, ne vous conformez pas au monde présent. Puisque Christ a établi son règne, puisqu'il a inauguré cet ordre nouveau, vous qui croyez en lui, ne vous conformez pas au monde présent. Le monde présent désigne cet ordre ancien, cet ordre déchu et dysfonctionnel. Nous avons la liberté de nous conformer au monde présent. C'est-à-dire que c'est une possibilité dans notre vie que nous nous conformions au monde présent. Mais nous ne devons pas le faire parce que nous n'en avons pas le droit. Car Jésus règne, il est suprême, il a établi son règne. Il est notre roi et nous sommes ses serviteurs. C'est à son royaume que nous devons allégeance. Alors, vous arrivez à ce passage à niveau, feu rouge. Vous avez la liberté de passer, mais vous n'en avez pas le droit d'ailleurs, pas forcément au passage à niveau. Hein. Vous partez d'ici tout à l'heure, vous arrivez au croisement là-bas vers le stade, vous aurez peut-être un feu rouge. C'est pas le feu rouge qui va vous empêcher de passer si vous avez envie de passer. Mais ce n'est pas parce que vous avez la possibilité de le faire ou la liberté de le faire que vous en avez le droit. De même, vous avez la liberté de sauter du haut d'une falaise, mais vous n'en avez pas le droit et vous vous en rendrez compte assez rapidement parce que vous écraserez en bas et vous perdrez la vie. Quand vous allez contre le droit, dans bien des domaines de notre vie, on sait très bien qu'on doit en souffrir les conséquences un jour ou l'autre. Mais c'est une réalité aussi dans notre relation avec Dieu. Et la question qu'il faut se poser, c'est donc la suivante. Quel est le droit selon Dieu ? Hein, il y a dans notre société de multiples sources d'informations qui influencent notre manière de penser, qui influencent nos opinions, qui influencent par conséquent notre propre discours et la façon dont nous menons notre vie. Mais puisqu'il n'y a pas de neutralité, de zone neutre, on pourrait dire, ok, ça c'est 50-50, ça c'est bon, on peut choisir. Puisqu'il n'y a pas de zone de neutralité, alors il faut absolument faire l'effort, déjà dans un premier temps, et c'est la première application de ce texte, faire l'effort d'identifier les différentes sources d'informations qui sont influentes dans notre vie. Quelles sont les sources d'informations qui sont les plus influentes dans votre vie ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? Quels sont les canaux par lesquels l'information vous parvient et par lesquels ou qui influencent votre propre manière de penser ? Et vos propres opinions ? Est-ce que c'est la télévision que vous regardez dans beaucoup de foyers en France, et pas seulement en France ? La télévision reste allumée pendant des heures, parfois juste comme bruit de fond. Est-ce que nous avons conscience de la puissance de ces sources d'informations pour affecter notre propre manière de penser ? Est-ce que c'est la télévision ? Est-ce que c'est Internet ? De nos jours, les gens passent peut-être plus de temps sur Internet qu'à regarder la télé. Est-ce que c'est certains sites, certains blogs, certains articles que vous lisez sur Internet qui vous influencent ? Est-ce que c'est la musique que vous écoutez, les paroles de ces chants que vous connaissez par cœur, que vous chantez à tue-tête dans la voiture ? Est-ce que ce sont les livres ou les journaux que vous lisez ? Est-ce que ce sont vos amis ? Je sais que quand on est en particulier à l'école, quand on est encore assez jeune, qu'on va au collège, au lycée, on est entouré d'amis, on fait partie d'une classe où on est entre 20 et 30, peut-être parfois plus encore. Est-ce que ce sont nos amis qui nous influencent, etc., etc. Il faut faire cet effort, dans un premier temps, l'effort d'identifier les sources d'informations les plus influentes dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément mauvaises ou que c'est forcément mauvais tout ce qui arrive par ces canaux, n'est-ce pas ? Mais il faut les identifier pour être lucide déjà. Et plutôt que de nous conformer au monde présent sous l'influence de ces différentes sources d'informations, l'apôtre Paul nous propose une alternative. Il dit, plutôt que cela, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, sous-entendu le renouvellement de votre intelligence. Pour Paul, le point de départ de ce renouveau, de cette façon différente de percevoir le monde et donc de vivre, le point de départ se situe au niveau intellectuel, au niveau de l'intelligence. Si nous reconnaissons l'œuvre de Jésus à la croix et au tombeau vide, si nous reconnaissons que c'est vrai, que ces choses se sont réellement passées, si nous le reconnaissons intellectuellement, cela implique logiquement de voir le monde différemment déjà intellectuellement. Je ne parle même pas de la façon dont on vit, je parle juste de ce que nous savons, de ce que nous connaissons au niveau de notre intellect. Si réellement Dieu s'est incarné, il est venu sur terre sous la forme d'un homme, Jésus-Christ, et que réellement ce Jésus-Christ a vécu une vie parfaite sans jamais désobéir à Dieu, si réellement il est mort sur la croix pour expier les péchés de ceux qui lui feraient confiance, et si réellement il est pas juste mort mais enterré et qu'il est ressuscité le troisième jour, si réellement ça s'est passé ça, vous pensez pas que ça devrait impliquer qu'on voit le monde différemment? Ça veut dire que les choses ne sont pas comme on le pensait. Ça veut dire que quelqu'un est plus fort que la mort, quelqu'un est plus fort que le mal, quelqu'un est suprême dans cet univers. C'est pour cette raison qu'en tant que chrétien, si nous disons chrétien, ça veut dire que nous sommes disciples de ce Jésus-Christ, ça veut dire que nous n'avons pas, et ça c'est logique, hein, nous n'avons pas la même vision du monde que ceux qui ne reconnaissent pas la réalité de ces fêtes. C'est impossible d'avoir la même vision du monde que quelqu'un qui ne pense pas que Jésus soit venu, qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité. Puisque ça change tout. Or, si nous vivons en France, vous savez à peu près le pourcentage de gens qui croient, comme vous, que Jésus est Dieu, le Fils incarné, qu'il est mort pour les péchés des croyants et qu'il est ressuscité. Vous savez à peu près le pourcentage de gens qui pensent comme vous, si on réduit ce pourcentage juste aux chrétiens évangéliques, comme nous qui sommes attachés à l'autorité de la parole de Dieu en tant que textes qui ont été inspirés par Dieu, qui sont infaillibles, ça fait moins d'1% de gens qui pensent comme vous, qui ont la même vision du monde que vous. Alors si on élargit un petit peu pour inclure quelques catholiques, quelques orthodoxes, etc., allez, peut-être qu'on atteint 1, 1,5, 2, allez, soyons généreux, 2%. Ça veut dire que quand vous regardez la télé, il y a 98% de chances que les gens qui vous parlent ne croient pas comme vous, qu'ils n'ont pas la même vision du monde que vous. Quand vous allez à l'école, il y a 98% de chances que les gens qui vous entourent à l'école, dans votre classe ou à la fac, ne pensent pas comme vous, qu'ils n'ont pas la même vision du monde que vous. 98% des articles que vous lisez dans les journaux, à moins qu'il s'agisse d'un magazine chrétien évangélique, bien sûr, mais si vous lisez Le Monde, Le Figaro, Libération, et j'en passe, 98% de chances au moins que les gens qui s'expriment et qui vous communiquent des informations ne pensent pas comme vous, qu'ils n'ont pas la même vision du monde que vous. Ça veut dire quoi? Que si nous voulons connaître le droit selon Dieu, on ne peut pas se tourner vers n'importe qui ou n'importe quoi. Mais heureusement, et grâce soit rendue à Dieu, il nous a donné sa parole. La Sainte Bible, une source d'information infaillible, qui est au-dessus de toutes les autres. De sorte que nous pouvons connaître le droit selon Dieu, puisque nous pouvons, par le moyen de la Bible, nous informer auprès de Dieu. Quelle chance, n'est-ce pas? Alors imaginez que vous approchez donc de ce fameux passage à niveau. Vous êtes dans votre voiture, mais il se trouve que ce jour-là, pas de chance, vous êtes ébloui par le soleil. Vous n'arrivez pas à voir si le feu est vert ou rouge. Que vous allez faire? Vous allez tenter votre chance? Ou vous allez prendre les dispositions nécessaires pour voir le feu, peut-être sous un angle différent, peut-être il faudra sortir de la voiture pour s'assurer de la couleur du feu. Je pense que, en tout cas, personnellement, je ne vais pas tenter ma chance. Mais imaginez que vous arrivez à ce feu, imaginez tout à l'heure, en partant de Gerland, en partant de d'ici, vous arrivez à ce carrefour, vers le stade, vous n'arrivez pas à voir la couleur du feu. Et il y a 15 voitures derrière vous qui vous klaxonnent. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Si vous êtes comme moi, vous allez tenter de tenter votre chance, n'est-ce pas? Pourtant, c'est pas sans une certaine crainte, un certain tremblement. Non, mais j'en sais rien. C'est seulement si j'arrive à voir la couleur du feu que je peux être sûr. Eh bien, nous vivons dans un contexte similaire en France. Entouré, disons, de 98% de gens qui ne pensent pas comme nous, qui pensent peut-être que c'est le rouge qui est la bonne couleur pour traverser, et qui sont tous derrière nous à klaxonner. La force du courant est grande, et si grande d'ailleurs qu'il est difficile de remettre en question, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la pensée unique, ou le politiquement correct. Non seulement cela, mais en plus, à cause de notre nature humaine, changer notre avis sur quelque chose, c'est très difficile, parce qu'il nous manque une certaine dose d'humilité. Et quand on a vécu toute sa vie en pensant que c'est le feu rouge qui dit qu'on peut y aller, et qu'en fait on nous dit non, c'est le feu vert, c'est difficile. Hein? Ceux parmi vous qui avez le permis de conduire, vous avez peut-être passé 10, 15, 20, 30 ans à rouler à droite. C'est une des règles de base, n'est-ce pas? Du code de la route, on roule à droite. Mais si vous allez dans un des plus beaux pays du monde, en Écosse, et que vous roulez à droite, vous n'allez pas vivre longtemps. Or, vous savez très bien intellectuellement qu'on doit rouler à gauche, mais c'est dur. Au premier rond-point, au premier carrefour, vous allez viser la droite. Il est difficile pour nous de changer des habitudes qui sont profondément enracinées en nous. Il est difficile pour nous de changer d'opinion sur tel ou tel sujet. C'est compliqué. Pourtant, sous le règne de Christ, parce qu'il est mort et ressuscité, nous devons accepter de voir le monde différemment. Et aujourd'hui, je vous pose la question à vous ici, ou à d'autres qui écouteraient peut-être sur Internet, si aujourd'hui vous reconnaissez l'œuvre de Jésus à la croix, si vous reconnaissez que Jésus est mort à la place des croyants, si vous considérez sa victoire sur la mort, et non seulement sur la mort, mais sa victoire sur toutes les puissances qui sont hostiles à Dieu. Et si vous pensez à cette puissance extraordinaire qui a été déployée dans la résurrection de Jésus, si vous pensez à cette puissance associée avec l'amour que Dieu porte envers les croyants au point de mourir pour eux, si vous pensez à ces choses, qu'est-ce qui pourrait bien vous empêcher aujourd'hui de remettre votre vie sans réserve, sans condition entre les mains d'un tel Dieu, d'un tel Seigneur, et de le laisser par conséquent tout changer en vous, que ce soit votre façon de voir le monde ou bien votre façon de vivre, votre façon de penser. Et ce changement aura une portée dans votre vie peut-être insoupçonnée. C'est la dernière partie de ce verset. Paul dit que le changement au niveau de notre intelligence, donc le renouvellement de notre intelligence selon la vérité de Dieu, selon la vérité de l'Évangile, va induire un changement au niveau de notre vie. Il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le mot « transformer » ici en grec, c'est le mot qui a donné en français le mot « métamorphose ». Soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Vous allez avoir une intelligence nouvelle qui va entraîner cette métamorphose dans votre vie, un changement, une transformation manifeste dans votre vie. Pourquoi ? Parce que quand notre intelligence se conforme à l'intelligence de Dieu, quand on commence à voir le monde différemment, alors on peut commencer à discerner la volonté de Dieu et on peut commencer à faire nos choix de vie en fonction de la volonté de Dieu. C'est ce que dit Paul ici. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et la portée de ce changement, selon Paul, c'est une portée radicale, c'est une portée qui englobe tout dans la vie. Cette transformation doit toucher tout ce que nous pensons, disons et faisons dans absolument tous les domaines. Paul le résume ainsi, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Deux points, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que c'est Dieu qui définit ce qui est bien. Par cette expression de ce qui est bon, il désigne le bien moral, quoi, ce qui est bien de faire, la bonne façon de vivre, d'agir, de parler, de penser. Mais c'est Dieu aussi qui définit ce qui est agréable, c'est-à-dire ce qui est censé plaire. Est-ce que vous avez déjà pensé au fait que la volonté de Dieu doit déterminer vos goûts? Que vous n'êtes pas en fait libre d'avoir les goûts que vous choisissez, comme si ce domaine était un domaine neutre. Même ce qui est censé vous plaire, vous procurer du plaisir, est déterminé par la volonté de Dieu. Et c'est aussi la volonté de Dieu qui détermine ce qui constitue la vraie maturité de l'homme. C'est cette expression que Paul utilise ici, ce qui est parfait. C'est le sens de cette expression. Ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui constitue la vraie maturité pour l'homme. Alors vous voyez la portée radicale de cette transformation, de cette métamorphose entraînée par le renouvellement de notre intelligence selon la vérité de l'Évangile. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, et qu'il vous invite chez lui pour fêter son anniversaire, il arrive souvent que quand on ne sait pas trop quoi lui acheter à cette personne, on va se renseigner pour savoir ce qui lui plaît, n'est-ce pas? Et on va acheter un cadeau en fonction de ce qui plaît à cette personne. On ne va pas acheter un cadeau en fonction de nos goûts personnels. Enfin, des fois, c'est ce qui arrive dans un couple. On offre un cadeau à son épouse. Moi, il m'est déjà arrivé d'offrir un cadeau à Suzanne. Mais c'était un cadeau un peu. Il y avait un intérêt derrière. Parce que je disais, bah, c'est un truc que je vais pouvoir utiliser derrière. Vous voyez? Mais bon, je le confesse, mais c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Normalement, on offre, non pas en fonction de nos goûts personnels, mais on offre à la personne quelque chose en fonction de ses goûts à elle. Au verset qui précède celui qu'on a lu, qu'on est en train d'étudier, Paul parle d'offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Si notre vie est censée être agréable à Dieu, si notre vie est une offrande à Dieu, une sorte de cadeau que nous lui offrons, alors ça vous paraît pas logique de vous renseigner pour savoir quels sont les goûts de Dieu? Qu'est-ce qui lui plairait dans ma vie pour que l'offrande de ma vie lui soit agréable? Plutôt que de lui offrir la vie que j'ai envie d'avoir, la vie qui me plaît, la vie que je conduis selon mon sens du bien et du mal, selon mes goûts personnels. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour conclure, on se posait la question, hein, en introduction, de savoir d'où proviennent nos opinions. Nous avons tous des opinions sur plein de sujets. Si vous êtes un bon Français, vous avez une opinion sur tous les sujets. Mais ce texte nous a montré l'importance de discerner quelles sont ces sources d'informations qui influent sur notre pensée. Parce qu'aucune de ces sources d'informations n'est neutre. Nous devons discerner le vrai du faux. Nous vivons, que nous le sachions ou non, sous le règne de Jésus-Christ qui est venu, qui a vu, qui a vaincu, qui est monté auprès du ciel, qui déploie son règne aujourd'hui. Et les opinions que nous avons sur tel ou tel sujet de société, mais que nous avons aussi dans tel ou tel domaine de notre vie, ces opinions, soit nous les soumettons au règne de Christ, soit elles restent soumises au régime d'une création et d'une humanité déchue. Il n'y a pas de zone tampon entre les deux, il n'y a pas de zone de neutralité. Soit nous vivons dans l'ordre nouveau, sous le régime de Jésus, de la rédemption et de la vie, soit nous vivons sous le régime du monde, du péché et de la mort. Il n'y a pas de juste milieu. Ça s'étend, cette réalité s'étend du domaine de l'éthique jusqu'au domaine de l'esthétique. Même nos goûts personnels sont soumis au règne de Christ. Voilà qui vous choque peut-être. Moi, ça a tendance à me choquer, à me déranger, de penser que même mes goûts. Alors bien sûr, tout cela à prendre peut-être avec un peu de mesure, mais même nos goûts personnels parfois peuvent déshonorer Dieu. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces sujets que j'ai mentionnés, par exemple, euthanasie, écologie, religion, pizza végétarienne, etc., etc. Quelles sont vos opinions? Quels sont vos discours sur ces sujets? Quels sont les choix qui découlent de vos opinions? Eh bien, tout cela, pour notre bonheur le plus ultime, et pour le bien du monde qui nous entoure, et pour la gloire de Dieu, tout cela doit se conformer à l'opinion et au goût de Dieu. Car tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On va prier. Seigneur, on voit de nouveau ce soir dans ce passage très court combien l'appel que tu nous adresses est un appel radical. Nous ne pouvons pas te suivre à moitié. Nous ne pouvons pas nous dire disciples de Jésus juste quand cela nous arrange, juste pendant notre temps libre. Soit nous te suivons, soit nous ne te suivons pas. Comme Jésus l'a dit lui-même, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Seigneur, ce sont des paroles qui sont dures à entendre pour nous. Et nous confessons que c'est notre incrédulité qui fait qu'elles sont dures à entendre. te demandons pardon pour ce péché qui est en nous. Nous te demandons par ton Saint-Esprit de nous aider à être lucides sur notre condition et à être pleinement motivés, Seigneur, à marcher devant ta face et à chercher quelle est ta volonté dans tous les domaines de notre vie parce que tu nous as rachetés à grand prix. Amen.